Vous écoutez, on lit pour vous.
Le signal d'arrêt des bus scolaires, trop souvent ignoré. Un texte de Frédéric Lacroix-Couture, paru le 26 janvier 2026 dans Le Devoir. Chiffres à l'appui, la Fédération des transporteurs par autobus, FTA, déplore qu'encore trop d'automobilistes omettent de s'immobiliser lorsqu'un autobus jaune déploie son signal d'arrêt pour faire monter ou descendre des écoliers. Et plusieurs de ces contrevenants sont des conducteurs susceptibles d'avoir des enfants en âge scolaire. En ce début de la 38e campagne de sensibilisation pour la sécurité en transport scolaire, la FTA diffuse lundi le nombre de contraventions remise pour non-respect du panneau d'arrêt des autobus au Québec. Selon des données de la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, le chiffre s'élevait à 939 en 2024, soit un bond de 15 % par rapport à 2020. Cette année-là, un peu plus de 800 constats avaient été remis pour ce type d'infraction. Le nombre de contraventions à ce chapitre, en 2024, a toutefois été un peu moindre comparativement aux trois années précédentes. En 2021 et 2022, on dénombrait autour de 1000 constats, avant de redescendre à 945 en 2023, toujours selon des statistiques de la SAAC. Néanmoins, sur la route, les chauffeurs d'autobus scolaires observent plusieurs fois des conducteurs qui font fi du signal d'arrêt avec les feux clignotants et qui ne sont pas interceptés par la police, soutient le président-directeur général par intérim de la FTA, Luc Lafrance, en entrevue. Au-delà des chiffres que nous rapporte la SAAC, il y a aussi les transporteurs qui nous disent que leurs conducteurs leur rapportent presque tous les jours des situations où des automobilistes n'ont pas respecté le bras d'arrêt, relate-t-il. Ce qui surprend davantage M. Lafrance, au regard des statistiques de la SAAC, c'est l'âge d'une importante proportion des contrevenants. Les conducteurs, âgés de 25 à 44 ans, ont représenté près de 52 % des personnes ayant commis cette infraction. Il s'agirait d'une hausse de 26 % depuis 2020. C'est l'âge cible de parents d'enfants qui sont en âge scolaire, primaire ou secondaire. Donc, c'est aussi très inquiétant, note M. Lafrance. Les facteurs expliquant pourquoi tant d'automobilistes enfreignent cette règle peuvent être multiples. Distraction au volant, ou parents pressés après avoir reconduit leurs enfants à l'école, par exemple, avance M. Lafrance. Ce qui ne constitue pas des excuses valables, précise-t-il. Il ne croit pas cependant que ce soit en raison d'une méconnaissance de la réglementation qui existe depuis de nombreuses années. Elle est en place, je dirais, depuis qu'on fait des campagnes de sécurité. Et c'est quand même bien connu que cette infraction-là est quand même importante. C'est 9 points d'inaptitude que l'automobiliste perd à son permis de conduire. Et c'est quand même une amende de 300 $. Donc, il faut y songer à deux fois avant de ne pas respecter les feux clignotants, plaide-t-il. La FTA mettra tout de même l'accent cette année sur l'importance de respecter le signal d'arrêt des autobus scolaires dans le cadre de la 38e campagne de sensibilisation intitulée « M'as-tu vu? » Les élèves, lorsqu'ils embarquent ou débarquent de l'autobus scolaire, ils sont souvent plusieurs à le faire en même temps. Ils sont souvent indisciplinés. Ils vont traverser sans regarder, sachant qu'ils le font en toute sécurité parce qu'il y a des feux clignotants, expose M. Lafrance. C'est important. Lorsqu'on est automobiliste à proximité d'un autobus scolaire, d'être toujours vigilant, de surveiller les feux clignotants et de surveiller s'il n'y a pas des enfants qui pourraient surgir rapidement entre deux voitures ou devant l'autobus, poursuit-il. Au cours de cette semaine de sensibilisation, il y aura différentes initiatives menées par des transporteurs et centres de services scolaires afin de rappeler les comportements sécuritaires en présence d'autobus scolaires. La FTA indique qu'au cours des 18 dernières années, 3 écoliers ont été mortellement impliqués dans un accident aux abords d'un autobus scolaire. C'était le signal d'arrêt des bus scolaires trop souvent ignoré. Un texte de Frédéric Lacroix-Couture paru le 26 janvier 2026 dans Le Devoir.
Fraude amoureuse, le piège réel d'une fausse séduction. Un texte de Marie-Ève Martel paru le 22 août 2025 dans Virage. Après 42 ans de mariage, Sylvie Côté a redécouvert la passion sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a rencontré Richard, un homme séduisant, charmeur, bienveillant et fabriqué de toutes pièces. Prise au piège dans une fraude amoureuse, la sexagénaire a fini par tout perdre, même sa vie. L'histoire qui suit vous paraîtra peut-être saugrenue. Vous vous direz sans doute, moi, je ne tomberai jamais dans un tel piège. Mais détrompez-vous, personne n'est réellement à l'abri. Le broutage, nom donné à cette stratégie où l'arnaqueur tisse lentement sa toile autour de sa victime, est une mécanique bien huilée qui fait chaque année des milliers de victimes à travers l'Occident. Ces malfaiteurs, généralement établis en Afrique de l'Ouest ou en Asie du Sud-Est, déploient une panoplie de stratégies pour vous faire croire au grand amour. Pour bien des victimes de broutage, lorsqu'elles réalisent avoir été dupées, il est déjà trop tard. Sylvie Côté fait partie du lot. Récemment divorcée, cette résidente de Granby est abordée par un certain Richard sur Facebook Rencontre. L'homme affirme habiter à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais il se trouve actuellement à l'étranger pour un voyage d'affaires. Leur relation reste épistolaire, mais la dame de 68 ans tombe néanmoins rapidement amoureuse. Citation « Tout ce que mon père ne lui avait jamais dit, parce qu'il était d'une autre génération, Richard le lui disait. Tu es belle, tu es capable, tu es forte. » Elle est tombée dans le panneau tout de suite, raconte sa fille Sophie Lacroix en entrevue avec Virage. Pourtant, citation, il n'y avait aucune chance que ce soit un vrai conte. Fin de citation, poursuit celle qui a flairé tout de suite le poteau rose en voyant la photo et le profil de Richard. De malchance en malchance. Tout aussi rapidement que la flamme s'est attisée entre la Grambayenne et son correspondant, les malchances de ce dernier ont commencé. Citation, un jour, ma mère m'a appelé pendant que j'étais au travail pour me demander comment acheter un billet d'avion en ligne, raconte Sophie Lacroix. Je ne comprenais pas trop pourquoi, et comme je n'étais pas disponible pour l'aider immédiatement, elle m'a dit qu'elle allait s'arranger. Fin de citation. Richard se trouvait alors au Brésil et avait perdu son billet d'avion. Il a demandé à Mme Côté de lui envoyer l'argent nécessaire pour en acheter un autre. Citation, une autre fois, il avait perdu son passeport. Ensuite, il a été hospitalisé et avait besoin d'aide pour payer ses frais médicaux, relate Mme Lacroix. Il était tout le temps mal pris et demandait à ma mère de le dépanner en lui promettant de la rembourser. Et ma mère, avec son grand cœur, n'arrivait pas à voir le mal chez quelqu'un d'autre. Pour elle, c'était impensable de laisser quelqu'un dans le pétrin, renchérit-elle. Fin de citation. Éventuellement, Richard est « décédé », entre guillemets. Des proches de l'homme ont envoyé un faux testament à Madame Côté, désignée comme héritière. Citation. Pourtant, même le notaire de la caisse et moi tentions de lui démontrer qu'il s'agissait d'un faux, mais elle refusait de nous croire, témoigne Sophie Lacroix. Elle était complètement endoctrinée. Fin de citation. Richard est ensuite, guillemets, revenu d'entre les morts, fin des guillemets, pour finalement se retrouver en prison en Malaisie. Pour l'aider, il a demandé à Sylvie Côté de lui envoyer 5 000 $ par jour sous forme de cartes cadeaux variées. Un rythme insoutenable qui a amené la femme à se départir de sa résidence et à verser les fruits de la vente à son brouteur qui lui promettait sans cesse qu'ils seraient un jour réunis. Un stratagème bien organisé. Le préjugé selon lequel seules les personnes particulièrement crédules deviennent des victimes est tenace. Mais en réalité, les fraudeurs sont si sophistiqués qu'ils peuvent piéger n'importe qui. Citation. C'est comme s'il, Richard, avait 3 coups d'avance sur nous. Il savait ce qu'on allait dire à ma mère, ce que sa conseillère financière allait lui dire. Et il lui soufflait exactement ce qu'elle devait répondre pour obtenir ce qu'il voulait. Déplore Sophie Lacroix. Il avait aussi une équipe. Lui, sa sœur, sa nièce, un ami, un comptable. Chaque fois que j'essayais de la sortir de là, il l'attirait un peu plus vers le fond. Et c'est moi qui passais pour la méchante. Ce n'était plus ma mère, ajoute-t-elle, fin de citation. Ce constat n'a rien de surprenant pour Alvin, un résident de la Côte d'Ivoire, qui a été brouteur pendant quelques années avant de se repentir. Citation, on trouve les faiblesses de la personne, on lui dit ce qu'elle veut entendre et on fait tout pour la convaincre que c'est vrai, raconte-t-il. Pour gagner en crédibilité, les brouteurs utilisent des vidéos et des images publiées par de véritables personnes qui ignorent tout de cette usurpation. Citation, ensuite, ils découpent la vidéo en petites séquences. Elle se passe la main dans les cheveux, elle se gratte le nez. Comme ça, lorsqu'on leur demande une preuve, ils n'ont qu'à faire jouer la bonne séquence. Vous écoutez « Fraude amoureuse », le piège réel d'une fausse séduction. Un texte de Marie-Ève Martel paru le 22 août 2025 dans Virage. Un sentiment de honte et de détresse. Après avoir envoyé près de 800 000 $ à Richard, Sylvie Côté s'est rendue compte qu'il ne lui restait plus de quoi vivre bien longtemps avant de devoir recourir à l'aide sociale. Financièrement ruinée, elle a commis l'irréparable en mars 2024. Elle avait 71 ans. Beaucoup d'histoires de boutage connaissent une fin tragique comme celle-ci. En avril dernier, plusieurs médias québécois ont fait état d'au moins 25 personnes qui se sont enlevées la vie après avoir été victimes d'une arnaque amoureuse au cours des 10 dernières années. Citation. Malheureusement, l'arnaque sentimentale est un phénomène grandissant dans notre société, suscitant un sentiment de détresse et de honte chez les victimes, écrivait récemment la coroner Maître Nathalie Lefebvre dans la foulée du décès d'un homme de 67 ans. Ce dernier était à la recherche de l'âme sœur. Il a plutôt rencontré un escroc. Se sentant pris au piège après avoir perdu, guillemets, une importante somme d'argent, fin des guillemets, le sexagénaire a mis fin à ses jours. Dans son rapport d'investigation, la coroner souligne l'importance de la prévention, recommandant aux sites de rencontres et autres réseaux sociaux d'avertir leurs utilisateurs et utilisatrices quant aux risques liés aux arnaques amoureuses, de les sensibiliser aux effets potentiellement dévastateurs de ces escroqueries et de les inciter à demander de l'aide. Ce type de message aurait peut-être pu aider Sophie Lacroix, qui a tout tenté, en vain, pour ouvrir les yeux de sa mère. Leur relation en a souffert. Pour préserver sa santé mentale et physique, ébranlée par cette histoire et pour protéger son jeune fils, la Grimbéenne a dû couper les ponts avec sa mère au cours de la dernière année de sa vie. Citation, je lui ai dit, « Tu as le choix entre moi et ton petit-fils ou cet homme-là que tu n'as jamais rencontré. » Elle m'a répondu, « Lui, au moins, il m'aime. » raconte Mme Lacroix avec émotion. C'est comme aider un toxicomane. S'il n'est pas prêt, rien ne fonctionnera. Tu veux aider, mais crier ne sert à rien, lâche-t-elle. Alors, un jour, j'ai lâché prise. Si tu veux couler, coule, mais n'entraîne pas tout le bateau avec toi. Fin de citation. Pour que sa mort ne soit pas vaine. À la suite du décès de sa mère, Sophie Lacroix a retrouvé des copies imprimées de tous les messages échangés entre elle et Richard au cours des 3 dernières années. Un appel à l'aide, mais aussi des preuves tangibles qui lui ont permis de porter plainte à la police. Le dossier a ensuite été transmis à Interpol. Depuis, la Grambéenne attend toujours des nouvelles, mais elle garde espoir. Citation « Je me suis senti tellement seul et démuni dans cette histoire-là. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre vive la même chose », confie-t-elle. « Si je peux aider, ne serait-ce qu'une personne, une famille. Au moins, ma mère ne sera pas morte en vain. » Fin de citation. Si vous pensez au suicide ou si vous ressentez de l'inquiétude pour un proche, composez le numéro sans frais 1-866-APPEL, c'est-à-dire 277-35-53. Vous pouvez obtenir de l'aide psychologique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je rappelle le numéro 1-866-277-35-53. Une fraude qui coûte cher et qui demeure souvent silencieuse. La fraude amoureuse continue de faire des ravages, notamment chez les personnes aînées. Ces fraudes, souvent commises en ligne par des spécialistes de la manipulation, coûtent des millions de dollars chaque année. Malgré l'ampleur du phénomène, très peu de victimes osent en parler. La fraude amoureuse serait la troisième en importance au pays. En 2023, le Centre antifraude du Canada a géré 1135 plaintes liées à ce type d'arnaque, dont les pertes cumulées par les victimes totalisaient 50 300 000 $. Au Québec seulement, ce type de fraude a coûté à des victimes aînées plus de 2 700 000 $. Selon des chiffres dévoilés par l'Association des directeurs de police du Québec, près de 37 000 Québécoises et Québécois ont été fraudés en 2023, une hausse de 15 % en 2 ans. Ces chiffres vous semblent énormes? En fait, ils ne seraient qu'un pâle reflet de la réalité, car selon le Centre antifraude du Canada, moins de 5 % des victimes d'arnaque signalent le crime aux autorités. La honte et la culpabilité expliquent partiellement ce faible taux. Des signes à surveiller. Vous avez reçu une invitation sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Quelqu'un tente de vous séduire. Voici quelques signes qui pourraient vous aider à reconnaître si votre correspondant n'est peut-être pas la personne qu'il prétend être. Rapidement, l'individu vous déclare ses sentiments, même si vous ne l'avez jamais rencontré en personne ni en visioconférence. Il vit ou travaille régulièrement à l'étranger, semble très riche ou vous paraît hors de vos ligues. Une fois son amour déclaré, il commence à parler d'argent. Il demande d'abord de petites sommes et se fâche si vous refusez, tentant de vous convaincre que si vous l'aimez vraiment, vous devez lui donner ce qu'il demande. Il essaie de vous persuader d'investir dans un fonds inconnu ou d'acheter de la crypto-monnaie. Il invoque de nombreux accidents ou malheurs et affirme ne pouvoir compter que sur vous pour s'en sortir. Vous ou une personne proche êtes victime? Que faire? Si vous croyez être victime d'une arnaque amoureuse ou si c'est le cas pour l'un de vos proches, il est important de réagir rapidement et de dénoncer la situation. Rassemblez les preuves, faites des captures d'écran ou imprimez vos échanges avec la personne que vous soupçonnez. Conservez les relevés de virements bancaires ou toute preuve de paiement. Communiquez avec votre service de police locale. Communiquez avec le Centre antifraude du Canada via le site web antifraude-centre, en un seul mot, trait d'union, centreantifraude.ca ou au 1-888-495-8501. Je répète le numéro. 1-888-495-8501. Vous pouvez également avoir recours au service du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, sur le site web CAVAC, CAVAC.qc.ca ou 1-866-532-2822. Je répète le numéro 1-866-532-2822. Vous pouvez communiquer avec la ligne Abus Aînés au 1-888-489-2287. Je répète, 1-888-489-2287. La FEDOC, en collaboration avec la Sûreté du Québec et le CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal, offre le programme Aînés à viser. Celui-ci propose des séances d'information portant sur la fraude envers les personnes aînées. Pour en savoir plus, consultez le site web aînéavise.ca, aîneavise.ca. En 2023, le Centre antifraude du Canada a géré 1135 plaintes liées à ce type d'arnaque, dont les pertes cumulées par les victimes totalisaient 50 300 000 $. Cela vous semble énorme? En fait, il ne serait qu'un pâle reflet de la réalité, car moins de 5 % des victimes font appel aux autorités. La honte et la culpabilité expliquent partiellement ce faible taux. C'était « Fraude amoureuse, le piège réel d'une fausse séduction », un texte de Marie-Ève Martel paru le 22 août 2025 dans « Virage ».
Quoi faire et ne pas faire pour aider à se rendormir la nuit? Un texte commandité, paru le 24 novembre 2025 dans la presse. C'est le milieu de la nuit et votre esprit est en pleine ébullition. Vous angoissez déjà à l'idée d'une autre journée minée par le manque de sommeil. Que pouvez-vous y faire? Voici quelques recommandations pour mieux gérer les éveils nocturnes. Appliquées individuellement, ces consignes ont un effet modeste. Mais en les combinant soir après soir, vous favoriserez un sommeil réparateur. Ne regardez pas l'heure. Compter les minutes restantes à votre nuit pourrait accroître votre stress et nuire à votre endormissement. Pour résister à la tentation d'un coup d'œil rapide, retournez votre réveil matin contre le mur et ne touchez pas à votre téléphone ou à votre montre intelligente. Comptez à l'envers. Vos pensées refusent de se taire. Détournez votre attention vers une tâche monotone, comme un long décompte à l'envers. Commencez par 1000, puis reculez lentement en respirant profondément. Cette distraction pourrait occuper votre esprit jusqu'à ce que le sommeil revienne. Ignorez votre téléphone. La lumière bleue qu'émettent les appareils électroniques perturbe la production de mélatonine, l'hormone responsable de réguler l'éveil et l'endormissement. Évitez de manipuler votre téléphone la nuit et dans l'heure précédant le coucher. Contractez et relâchez vos muscles. La relaxation musculaire progressive, RMP, offre un moyen rapide et accessible d'apaiser les tensions et de favoriser l'endormissement. Concentrez-vous d'abord sur vos pieds. Contractez vos orteils et vos muscles pendant 5 à 10 secondes, puis détendez-vous. Respirez profondément. Répétez l'exercice avec vos jambes, votre dos, votre ventre, vos bras et votre visage. Pratiquez cette technique chaque soir au coucher pour en maximiser l'efficacité lors des éveils nocturnes.
Levez-vous et changez de pièce. Si vous n'arrivez pas à vous rendormir après une vingtaine de minutes, sans regarder l'heure exacte, changez d'environnement. Passez au salon et installez-vous confortablement pour lire ou colorier. L'idée est de distraire votre esprit sans le stimuler pleinement. Ne retournez au lit que lorsque vous sentez que la fatigue vous gagne. Évitez la lumière vive. Lors des éveils nocturnes, maintenez un éclairage le plus faible possible, juste assez pour lire avec un certain effort. Davantage de lumière pourrait perturber votre horloge biologique et signaler à votre corps qu'il est temps de se lever. Ne travaillez pas et n'accomplissez pas de tâches. La nuit doit demeurer associée au repos dont votre corps et votre esprit ont besoin. Ne cherchez pas à rendre ce temps productif, par exemple en travaillant à l'ordinateur ou en cuisinant. Ce genre d'activité stimule votre cerveau au mauvais moment et pourrait devenir une habitude. Après une nuit difficile, gardez le même horaire. Même si la fatigue semble insurmontable une fois le matin venu, résistez aux tentations de faire la grasse matinée, de vous adonner à une sieste pendant la journée ou de vous coucher plus tôt. Ce décalage risque d'entretenir le problème. Efforcez-vous plutôt de respecter votre horaire habituel et utilisez ce besoin accru de sommeil pour réinitialiser votre horloge biologique. Consultez une professionnelle ou un professionnel de la santé. Si les troubles du sommeil persistent, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre pharmacienne ou pharmacien. Ces derniers pourront évaluer votre situation, identifier les causes possibles et vous orienter vers les solutions les plus adaptées. Cela peut inclure des approches comportementales ou, si nécessaire, des produits en vente libre ou sur ordonnance. Lâchez prise. Paradoxalement, tenter de forcer le sommeil ne fait qu'entretenir la frustration et l'éveil. Abandonnez-vous plutôt à l'instant présent et laissez le repos s'installer naturellement. Après tout, votre corps sait comment dormir. Il l'a fait des milliers de fois auparavant. C'était « Quoi faire et ne pas faire pour aider à se rendormir la nuit », un texte commandité, paru le 24 novembre 2025 dans la presse.